Bonsoir et bienvenue à cette deuxième soirée sur le décryptage des activités spatiales. Ce soir, nous allons nous intéresser à la réalité de la surveillance et du contrôle de la Terre avec Thierry Rousselin, André Husson et le débat sera animé par Fabienne Chauvière. Cette série de trois débats a été organisée en partenariat avec l'Observatoire du CNES. Et je remercie Gérard Azoulay qui en est le responsable et qui nous a aidé à préparer ce programme. Et juste avant de commencer le débat, on va l'introduire par la lecture d'un texte littéraire, d'un texte qui s'intitule « Passe-partout sur le net et dans le ciel » d'Emmanuel Pierrat, que va nous lire François Raison, qui est comédien. Et je précise que ce texte a été écrit par Emmanuel Pierrat pour la revue Espace, à partir de dispositifs littéraires mis en place par l'Observatoire de l'espace du CNES. Donc merci beaucoup et je passe la parole à François Raison.
Passe-partout sur le net et dans le ciel, par Emmanuel Pierrat. Les images commencèrent à circuler sur la toile, franchissant les frontières terrestres par le biais du peer-to-peer. En quelques jours, des milliers de clichés différents se démultiplièrent sur le réseau. Lorsque les premiers sites officiels d'information en ligne se firent l'écho de ce nouveau phénomène, aucun internaute ne savait déjà plus qui lui avait le premier adressé les photographies prises à la verticale de la Terre. Celles-ci fascinaient tant par leur qualité que par leur originalité. Le degré de résolution permettait de distinguer sans flou les moindres détails, des toitures refaites à neuf en pleine Bavière, aux champs de pavots de la jungle birmane, des luxueuses piscines d'Orlando aux héliports privés installés au sommet des tours de Tokyo. Les particuliers s'amusaient de cette abondance d'instantanés, déclenchée en apparence au rythme de plusieurs dizaines par seconde. Les médias traditionnels, qui avaient, en retard, titré à la une à propos des images venues de l'espace, s'interrogeaient sur la raison de cette profusion gratuite et anonyme. Tous ne se réjouissaient pas. De gigantesques enjeux financiers semblaient soudainement en péril. La commercialisation de plus en plus accrue des clichés pris par satellite concernait les urbanistes, les éditeurs d'Atlas ou encore les chercheurs focalisés sur l'effet de serre. Les gouvernements, les agences étatiques et les organismes internationaux s'alarmaient de voir surgir la face la plus secrète de la planète Terre. Les premiers satellites lancés à des fins privées s'en tenaient en effet aux restrictions imposées par les règles sécuritaires propres à chaque pays. Beaucoup d'images sensibles finissaient soit à la poubelle numérique, soit dans des banques iconographiques classées secret défense. Nulle trace jusque-là n'avait pu apparaître au grand jour des bases militaires, des sous-marins immergés et ballottés par les vagues, des rampes de lancement de missiles, etc. Sans compter les restrictions imposées par les services antiterroristes pour les bâtiments sensibles, ou par les multinationales persuadées que leurs locaux devenaient translucides parce qu'un engin spatial les observait. Les uns se délectaient, alimentant leurs blogs de cette iconographie littéralement tombée du ciel. D'autres, intrigués par l'avalanche continuelle d'images inattendues, se passionnaient pour tenter de déterminer la trajectoire de l'appareil. Quelques-uns se regroupaient en des lieux précis, brandissant les bras dans l'espoir d'une photo de groupe. Chacun cherchait le portrait de sa propriété pour l'afficher en fond d'écran et celle de son voisin ou collègue afin d'examiner leur train de vie. Certains, aux fonctions plus officielles, paniquaient au cours de réunions de crise face à l'anarchie iconospatiale réduisant à néant tous les efforts mis en œuvre depuis des années pour encadrer le business de Spot, Google ou de l'IGN. Au fil des jours, les continents se retrouvaient balayés tour à tour, scannés inlassablement jusqu'au plus infime centimètre carré par une force inconnue. Elle se jouait des frontières terrestres en les survolant sans vergogne, comme elle les franchissait quelques secondes plus tard en passant d'une adresse électronique à une autre. L'ironie voulait par surcroît que les clichés célestes se promènent d'un ordinateur à un téléphone portable en se servant des satellites bien connus, chargé de transmettre les faisceaux modernes de télécommunications. En moins de deux semaines, le responsable avait été unanimement dénommé « Passe-partout », l'appellation « Passe-muraille » ayant été délaissée faute de « muraille ». Passe-partout se jouait de toutes les serrures qui avaient auparavant cadenassé les yeux électroniques lancés officiellement en orbite. Passé la stupéfaction, Le vaste monde d'Internet se mit assez vite à gloser sur l'identité de l'appareil photographique volant. Les forums des férus d'astronomie arrivèrent à éliminer les satellites et navettes dûment référencés. Les spéculations se portèrent alors sur une sorte de vaisseau fantôme imaginé par un État soucieux de discrétion et d'espionnage, mais ayant perdu le contrôle de son précieux jouet. Cette théorie connaissait de nombreuses déclinaisons. On oscillait entre les mystérieux avions du Pentagone et l'ordinateur devenu autonome inspiré de 2001 l'Odyssée de l'espace. Les sectes, ainsi que les amateurs de phénomènes paranormaux, penchaient pour l'arrivée surprise d'extraterrestres. Les Raéliens, précurseurs dans l'adoration des soucoupes, avaient délaissé la communication de moins en moins porteuse autour du clonage pour le culte de Passepartout. Un groupe d'ufologues sud-américains avait investi la région de Nazca. Il dessinait, à proximité des vestiges millénaires, de nouveaux messages destinés à être photographiés depuis la stratosphère, avec la certitude que la famille Roswell au complet possédait depuis belle lurette une connexion Wi-Fi surdimensionnée. Les altermondialistes dénonçaient une nouvelle dérive du tourisme spatial, certes balbutiant, mais capable, selon eux, des pires avatars. À les entendre, Passepartout ne pouvait être qu'un gadget de milliardaire. Un Richard Branson ne vendait-il pas déjà des places pour l'espace? Un nouveau Bill Gates avait largement les moyens de s'offrir un safari photo aussi inédit qu'infini. Les nations y perdaient leurs repères traditionnels. Les Chinois ne pouvaient plus cacher au reste du monde que la Grande Muraille disparaissait sous la pollution des usines de la République populaire. Tandis que Dubaï renforçait sa promotion touristique en attirant l'attention des médias sur les images où ces îles artificielles se détachaient nettement au cœur d'un golfe persique regorgeant de pétrole mais échappant aux émanations de CO2. Toutes les agences spatiales travaillaient au problème, tâchant de localiser et d'identifier Passepartout. Les modélisations de son orbite permirent d'abord de s'assurer de la régularité du moteur qui le propulsait. Sa future route en devenait plus facile à appréhender. À mesure que l'enquête avançait, les télescopes furent braqués en direction du parcours présumé. Il en fut de même des engins spatiaux en activité qu'ils aient été déjà placés en station autour de la Terre ou se dirigeassent vers une mission précise. Enfin, le visage du pourvoyeur d'images apparut. Là encore, Internet prit de court toutes les organisations patentées et diffusa le portrait de Passepartout à la vitesse d'un simple clic. Rien d'étonnant à ce que Passepartout soit resté insoupçonné. Les quelques centaines de kilos de métal ne se distinguaient guère des milliers d'engins tournant en permanence, parfois à l'abandon, autour de la Terre. La bataille reprit sur le web. Des fans de design ou de grandiloquence se déclaraient déçus par ce baril flottant au-dessus des nuages. Les tenants de l'intrigue trouvaient là un nouveau terreau d'investigation. L'engin semblait si banal que personne ne se rappelait plus qu'il l'avait initialement propulsé. On spéculait sur les matériaux utilisés, la forme de l'appareil, afin de le dater et de deviner son pays d'origine. De même, les éditorialistes s'empoignaient sur le but de cette manœuvre. Passepartout se voulait-il menaçant? L'était-il devenu, faute d'être contrôlé? En sus de perturber l'ordre iconographique spatial, était-il doté de facultés plus ou moins nocives? Les membres du Conseil de sécurité décidèrent de débattre de la question. La planète se prit de passion pour des textes restés à présent l'apanage des spécialistes, tels que le traité de 1967 régissant les activités des États en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique. Sa version intégrale figurait en deuxième position des requêtes qui assaillaient les moteurs de recherche, juste après les clichés diffusés sans cesse par Passepartout. La résolution 4165, adoptée en 1986 et sur laquelle reposait le principe dit de libre collecte des données relatives à l'observation de la surface terrestre à partir de l'espace, devint même un sujet de conversation quotidien dans les dîners en ville. Les conventions internationales furent épluchées en vain, car nul ne savait à qui appartenait Passepartout et comment rendre effective une éventuelle sanction. Entre-temps, l'espiègle OVNI continuait son survol et ses renvois vers toutes les antennes paraboliques des images les plus variées. Une start-up du Web 2.0 lança une chaîne sur Internet entièrement dédiée aux dites images. La plus-value du site consistait à légender les photographies, comme à les classer par thème, région, beauté. Les institutions gouvernementales songèrent cette fois à s'attaquer à ces petits malins qui redoublaient la nocivité de Passepartout. Mais aucun État, aucune entreprise n'osait donner l'assaut contre ce qui était devenu le site le plus populaire de la planète. Car les grincheux avaient mis de côté leurs réticences liées aux atteintes à la vie privée, consistant pour l'essentiel en la vision de cours de tennis et de ponts de yak. De plus, les ONG en tout genre y avaient déniché une opportunité inespérée pour mettre en lumière l'état du monde, de la fonte des glaciers à l'étendue des bidonvilles. Il était désormais impensable qu'un pays prenne l'initiative unilatérale de détruire Passepartout sans risquer à son tour une émeute ou l'oukase des autres membres de l'ONU. Le jour de son introduction au Nasdaq, Passepartout.com dépassa en une demi-heure la valorisation boursière de Google et d'Amazon réunis. Les promesses de recettes publicitaires s'avéraient astronomiques. Hasard ou mesure de rétorsion, une heure après l'ouverture de la place financière dédiée aux nouvelles technologies, celle-ci fut montrée de manière répétée par Passepartout durant une quinzaine de minutes. La mémoire de ses capteurs semblait avoir été soudainement bloquée comme mise en panne dans sa chasse aux icônes sur celle du temple de la bourse la plus high-tech. Ce fut la dernière image que la Terre reçut. Puis, le noir reprit ses droits, sur l'écran comme dans l'espace. Emmanuel Pierrat est avocat au barreau de Paris et dirige un cabinet spécialisé en droit de la propriété intellectuelle. Il a signé 3 romans publiés aux Dilettantes, Histoire d'eau, La course au tigre et l'industrie du sexe et du poisson pané, ainsi qu'un roman aux éditions Fayard, Les 10 gros blancs. Son dernier roman, Fin de piste, est paru aux éditions Léo Cher.